l'émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Plus de 70 chefs d'État et de gouvernement étaient à Paris ce week-end aux côtés du président Emmanuel Macron pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Parmi eux, Angela Merkel, Donald Trump, Vladimir Poutine, mais aussi une quinzaine de dirigeants africains, Alassane Ouattara, Macky Sall, Ibrahim Boubacar Keïta, pour n'en citer que quelques-uns, des dirigeants venus représenter les soldats de leur pays morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Le président Macron, vous allez l'entendre, à saluer la contribution des troupes étrangères et notamment africaines.
Sur ce sol de France, le monde entier était venu combattre. Des jeunes hommes de toutes les provinces et de l'outre-mer, des jeunes hommes venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, sont venus mourir loin de leur famille dans des villages dont ils ne connaissaient pas même le nom. Les millions de témoins de toutes les nations racontèrent l'horreur des combats, la puanteur des tranchées, la désolation des champs de bataille, les cris des blessés dans la nuit, la destruction de campagnes florissantes où ne subsistait plus que la silhouette calcinée des arbres. Beaucoup de ceux qui sont rentrés avaient perdu leur jeunesse, leurs idéaux, leur goût de vivre.
Voilà un extrait du discours prononcé hier par le président Macron à l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile, à Paris. L'occasion ce matin de revenir justement sur le rôle important joué par les colonies de l'Empire français entre 1914 et 1918. Avec mes deux invités, nous répondrons à toutes vos questions sur ces combattants africains. Ont-ils vraiment été recrutés de force? Étaient-ils de la chair à canon? Quel fait d'armes leur doit-on? Et nous en profiterons également pour lancer le débat sur la reconnaissance de la France. Est-elle à la hauteur du sacrifice consenti par les soldats africains? Et vous qui nous écoutez justement sur le continent africain, appelez-nous, dites-nous aussi quels souvenirs la Grande Guerre a-t-elle laissé dans la mémoire collective de vos pays respectifs? Un seul numéro pour nous rejoindre, 33 9 693 693 70 et les réseaux sociaux évidemment, la page Facebook de l'émission. À mes côtés, pour comprendre et débattre avec vous, Éric Dorot, bonjour.
Bonjour.
Chercheur associé au CNRS, historien, spécialiste des représentations sociales, coloniales et militaires. Vous avez réalisé plusieurs documentaires, notamment La Force Noire. Dans les studios de France Bleu Aix-Provence, Marc Michel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes agrégé d'histoire. On vous doit de nombreux ouvrages. Je ne citerai que le dernier, celui qui est publié ces jours-ci aux éditions Vendémiaire, Combattants de l'Empire, les troupes coloniales dans la Grande Guerre. Alors, avant de passer au standard, je voudrais revenir sur les propos du président malien qui était aux côtés du président français mardi dernier à Reims pour inaugurer le monument aux héros de l'armée noire. Et en parlant justement de ces soldats, le président Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré, je cite, « Ils se sont battus pour l'Empire, pour la France, mais pour eux-mêmes aussi. » Et en écoutant le président Ibeka, ces derniers mots m'ont interpellé « pour eux-mêmes aussi ». Éric Dorot, en quoi cette guerre pouvait-elle concerner les combattants africains?
Je pense qu'il a voulu, signaler que beaucoup de combattants, surtout après la mission Blaise Diagne, se sont sans doute engagés, ou en tout cas ont accepté de partir, dans cette idée que cela ferait évoluer leur statut, puisque le slogan de Blaise Diagne, c'était « En versant le même sang, vous gagnerez les mêmes droits ». Et donc je pense qu'ils ont porté, comme le dit Bader Thiam à Dakar, ils ont été en certaine façon des porteurs d'une modernité. Il est intéressant de voir qu'un certain nombre des leaders des émancipations africaines de l'après-guerre sont d'anciens combattants, que le premier congrès panafricain se tient à Paris en 1919. Je crois que c'est à ça qu'ils pensent.
Ouais, Blaise Diagne, pour les plus jeunes de nos auditeurs, premier député africain au Parlement français. Il a été nommé, et on aura l'occasion d'y revenir, pour recruter pacifiquement des tirailleurs. Marc Michel, vous êtes d'accord avec l'analyse, l'interprétation des propos du président Ibeka la semaine dernière ?
Oui, dans l'ensemble, je suis tout à fait d'accord avec cette interprétation. Lorsque j'ai commencé à travailler sur les troupes noires, il y a maintenant plus de 30 ans et que j'ai publié ma thèse il y a aussi plus de 30 ans, j'ai été frappé par l'importance de ce député, le premier député noir à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés à l'époque, qui fut nommé par Clémenceau commissaire de la République, l'équivalent d'un gouverneur général, et il assura le recrutement de plus de 50 000 soldats destinés au combat en Europe, pas seulement sur le front français, mais également sur les fronts orientaux, les Balkans en particulier.
Marc-Michel, à partir de quel moment a lieu l'appel aux troupes coloniales ? Dès l'entrée de la guerre ?
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que cela. On y pensa bien avant la guerre. On y pensa en particulier en 1910, lorsque le futur général Mongin publia son best-seller « La Force Noire ». Et qu'il préconisait un recrutement de soldats en très grand nombre en Afrique, et en Afrique subsaharienne, Afrique noire, disait-on à l'époque. Mmh. En 1914, il y avait seulement 30 000 soldats sous les drapeaux. Il y avait 15 000 qui étaient stationnés en Afrique occidentale, et le reste réparti entre le Maroc, l'Algérie, Madagascar. Pendant la guerre, évidemment, on est passé progressivement à des recrutements massifs, en particulier en 1916 et en 1918. Et au total, en 1918, il y a eu 200 000 soldats sous les drapeaux et environ 135 000 qui sont venus en Europe combattre sur différents fronts.
Alors voilà, je vous propose de passer au standard et de répondre évidemment aux nombreux auditeurs qui nous ont contactés ces derniers jours pour vous poser des questions, Marc-Michel et Éric Dereau. Question récurrente qui est revenue très très souvent vraiment sur la page Facebook de l'émission. Bonjour Valentin.
Bonjour Monsieur Wan.
Vous nous appelez de Djamena au Tchad, nous vous écoutons.
Oui Monsieur Wan, je vous appelle par rapport à la participation massive des combattants africains à la Première Guerre mondiale aux côtés de la France.
Oui.
J'aimerais savoir pourquoi appelle-t-on les tirailleurs africains, particulièrement les tirailleurs sénégalais. Comment était l'origine de cette appellation ?
Alors, pourquoi parle-t-on de tirailleurs sénégalais ? Voilà un terme qui interpelle de nombreux auditeurs. Éric Dereau, c'est un terme générique pour désigner finalement tous les combattants africains.
C'est une raison purement technique. En juillet 1857, Federbe crée le premier bataillon de tirailleurs sénégalais à Saint-Louis du Sénégal. Et puis, au fur et à mesure de la conquête, on va baptiser les unités qu'on recrute du nom des territoires sur lesquels on avance. Il y aura des tirailleurs tchadiens, haoussa, congolais, gabonais. Et en 1900, quand on sédentarise un ministère des colonies et que les troupes de marine deviennent des troupes coloniales, le commandement décide de normaliser et de tous les appeler sénégalais en référence à leur origine. Mais en réalité, derrière le terme sénégalais, ce sont tous les hommes levés dans ce qu'on appelait l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française.
Mais pourquoi avoir retenu ce terme de sénégalais ?
Parce que c'était les premiers qui avaient été créés à Saint-Louis du Sénégal. C'est une raison purement, je dirais, presque administrative.
Oui. Alors beaucoup d'auditeurs, je le disais, s'interrogent sur cette appellation. On a reçu par exemple le commentaire d'Amadi qui nous écrit du nord du Mali et qui se dit choqué, lui, de cette appellation tirailleurs sénégalais. Il nous dit ici, peu de gens comprennent qu'il y avait aussi derrière ces combattants qu'on appelle sénégalais aussi des Maliens. Il se trouve que ces choses-là sont inexistantes. Dans l'histoire, l'enseignement de l'histoire de notre pays, il faut donc arrêter de parler de tirailleurs sénégalais. Je vais vous donner la parole dans un instant, Marc-Michel, mais je voudrais qu'on écoute Mamadou, qui souhaite lui aussi revenir sur cette appellation. Bonjour Mamadou.
Bonjour Monsieur Gomez, bonjour à vos auditeurs.
Et nous vous écoutons avec nos invités.
Oui, en effet, je disais tout à l'heure que je ne peux pas comprendre que nous ayons globalisé, n'est-ce pas, les forces africaines sous le terme générique de sénégalais. Derrière ce terme, il y a des Africains, bien entendu, des Tchadiens, des Maliens, des Sénégalais. Tout le monde y a participé à cette grande campagne. Mmh. Alors dire tout simplement que c'est des Sénégalais qui ont participé avec ce terme générique, c'est un peu réducteur, c'est un peu péjoratif. Et moi, ça me heurte énormément. C'est en cela que je dis, je ne peux pas comprendre comment est-ce que ces pays qui ont existé pendant plusieurs décennies peuvent être appelés sous le seul mot générique de sénégalais.
Oui, Marc-Michel, 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, on voit bien que cette appellation continue à susciter une gêne auprès de nos auditeurs.
Oui, vous avez tout à fait raison, je le comprends, mais le terme n'est pas du tout péjoratif. C'est les techniques, et comme l'a dit très bien Éric Deroux, il désigne des formations. Bonjour Éric. Bonjour Éric. Des formations légères d'infanterie. Et puis, votre auditeur, Mahdou, a tout à fait raison. Ils n'étaient pas tous sénégalais, mais accidentellement, on les a appelés sénégalais parce qu'ils sont nés au Sénégal, mais que même pendant la Première Guerre mondiale, on pourra parler de la Seconde si on veut, une bonne partie d'entre eux ne venaient pas du tout du Sénégal, mais venaient du Mali, même de Côte d'Ivoire, du Dahomey de l'époque, le Bénin actuel. Et j'ai participé à deux colloques à Brazzaville en 2012, pas 1912 tout de même, 2012 et 2013, où on a été interpellé aussi sur ce terme tirailleur, et où il a fallu expliquer que ce n'avait rien de péjoratif. J'ajoute une dernière chose, qu'il n'y avait pas que des tirailleurs africains. Il y avait des tirailleurs algériens, encore plus nombreux. Il y a eu des tirailleurs somalis, des tirailleurs malgaches, des tirailleurs indochinois. Et donc, le terme est vraiment générique et désigne techniquement une catégorie de soldats qui, au départ, étaient armés légèrement et étaient extrêmement rapides.
Alors, il y a un autre terme qui revient également souvent. Je pense que c'est vous, Marc Michel, ou peut-être vous, Éric Deroux, qui l'avez utilisé en début d'émission, le terme de la force noire, pour que les auditeurs comprennent bien de quoi s'agit-il.
La force noire, Marc y a fait allusion tout à l'heure, c'est le titre du livre que sort le colonel futur général Mangin en 1910, pour un petit peu résumer l'idée qu'il a des possibilités qu'offrirait le continent africain en termes de recrutement. Et c'est vrai que pour répondre à vos auditeurs, et je crois que Marc le fait aussi, moi je préfère aujourd'hui parler de tirailleur africain, ou même finalement de force noire, parce que c'est plus explicite que le terme de sénégalais qui effectivement passe assez mal.
On repasse au standard avec une nouvelle question qui nous arrive de Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Ousmane.
Bonjour Van.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui Van, bonjour. Je souhaitais juste poser la question suivante.
Oui.
Allô. Il y a deux questions. La première est...
Allô.
Allô, bonjour.
Alors, il y a un petit problème, visiblement. Vous nous entendez ou pas, Ousmane? Sinon, je me fais votre porte-parole. Alors, allez-y, posez votre première question.
Je vous entends très bien. La première question est que qui procédait au recrutement des soldats africains en Afrique et comment se déroulait sur le terrain?
Alors, peut-être, Éric Deroux, la question est intéressante parce que ça sera peut-être l'occasion de tordre une nouvelle fois une idée qui est reçue. Était-il, puisqu'on parle de recrutement, était-il recruté de force?
Il y a eu plusieurs étapes. Avant la Grande Guerre, il y a différents systèmes de recrutement. On pense même à un moment donné à commencer à faire une sorte d'appel, comme on le fait en France, puis c'est très difficile à mettre en place. Grosso modo, comment ça se passe? Avant la guerre, chaque cercle a une idée approximative du nombre d'hommes qui peuvent être recrutés. Et en fonction des besoins, eh bien, on va demander au cercle de Kaolack 100 hommes, au cercle de Ziguinchor 200, etc. Ensuite, au moment de la guerre, on va décréter une mobilisation, on va commencer à faire un système d'appel. Et ce système, je parle sous le contrôle de Marc Michel, et ce système d'appel, petit à petit, évidemment, va se révéler de plus en plus difficile, puisque un certain nombre de populations vont résister.
Elles vont même se révolter.
Il va y avoir des révoltes extrêmement importantes dans la boucle de la Volta, des révoltes extrêmement importantes au Dahomey, sur un certain nombre de territoires, mais celles dans la boucle de la Volta, enfin aujourd'hui Burkina Faso, elles vont durer extrêmement longtemps, avec des colonnes armées pour aller chercher les soldats. Donc c'est vrai que il va y avoir à la fois des engagements volontaires, à la fois un appel, à la fois des recrutements forcés, et dans la dernière partie de la guerre, des volontaires à la suite de la mission Blaise Diagne.
Blaise Diagne qui est donc nommé pour recruter pacifiquement des tirailleurs. Marc Michel, Blaise Diagne va nouer des alliances avec les chefs locaux. Comment va-t-il réussir à convaincre justement les jeunes de s'engager et d'aller combattre en Europe pour défendre la France?
Éric Deroux a parfaitement résumé l'histoire de ces recrutements jusqu'à 1918. J'ajoute juste une petite chose, c'est que Blaise Diagne, après le recrutement de 1918, fait passer à la Chambre des députés une loi qui introduit le service militaire obligatoire, la conscription généralisée par classe en Afrique, en Afrique occidentale et en Afrique dite équatoriale à l'époque. Donc la conscription a commencé réellement à partir de 1919. Auparavant, c'est un mélange d'engagement volontaire. Il y en a eu pendant toute la guerre des cas célèbres, dont le cas, le fameux cas de Bakary Diallo, et puis des recrutements forcés. Alors Blaisien, comment il a réussi ? Ben, il a réussi à convaincre les chefs, et tout passait par les chefs tout de même. Il a réussi à convaincre les chefs, il a réussi à convaincre les futurs soldats. J'emploie le mot soldat noir très souvent. Les futurs soldats, en leur promettant des primes, en leur promettant des avantages, en promettant aux familles des avantages également, et en laissant miroiter pour les anciens combattants la citoyenneté, ou du moins la fin de l'indigénat. La suppression de l'indigénat. C'était toute une série de promesses, plus des promesses immédiates comme la création d'une école normale d'instituteurs, la fameuse école William Ponty, une école de médecine, enfin des promesses aux élites également, aux élites africaines.
Le temps passe très vite, Marc Michel. Ça veut dire que face à ces promesses, il y a eu tout de même une adhésion massive des populations ?
Oh, massive.
Non, vous relativez.
Pas trop exagérer, je
non, mais je pose des questions, je m'interroge et je veux comprendre. Éric Doreau partage votre avis. Hein. Quand j'ai dit massive, il a émis quelques doutes. Je vous propose de repasser au standard. On va prendre une question avant de rendre l'antenne pour un point complet sur l'actualité. Elias, bonjour.
Bonjour, Juan. Bonjour à tous les techniciens du journal de RFI.
Merci, nous vous écoutons. Quelle est votre question ?
Est-ce qu'il recevait une formation avant d'être envoyé sur le terrain ?
Ah, était-il formé avant d'arriver sur le territoire français, le territoire européen ? Qui veut répondre ? Éric Doreau.
Alors, la première série de tirailleurs qui sont arrivés en France à l'été et à l'automne 1914, parmi eux, beaucoup venaient du Maroc, où là, c'était des troupes extrêmement solides qui avaient déjà, qui étaient des troupes professionnelles pratiquement. Au fur et à mesure de la guerre, donc, ces conscrits étaient formés dans ces immenses camps qui avaient été installés autour de Fréjus, qui sont des camps énormes, qui vont compter jusqu'à 60 000 soldats, et puis quelques petits camps également dans la région de Bordeaux. Donc là, il y a un entraînement intensif, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que les tirailleurs souffrant extraordinairement de pertes dues aux conditions climatiques, de maladies pulmonaires, on va faire l'hivernage, c'est-à-dire que pendant 6 mois de l'année environ, les tirailleurs, les mois les plus froids, les tirailleurs de novembre à avril sont retirés du front et mis dans ces grands camps dans lesquels ils vont faire de l'entraînement permanent.
Étaient-ils aussi bien traités que leurs frères d'armes français sur le terrain ?
Oui, c'est clair que quand on voit par exemple l'équipement dont bénéficiaient les tirailleurs, c'était très très intéressant de regarder la dotation. On leur affecte par exemple le pullover dit du modèle des chasseurs alpins. On leur affecte une demi-couverture en plus. Dans la dotation de nourriture, ceux qui sont musulmans, le vin est remplacé par de la noix de cola, il y a plus de riz, il y a plus d'huile. Donc il n'y a absolument aucune mesure discriminante qui est prise à l'égard des tirailleurs. Non, l'armée fait très attention à ces tirailleurs. Simplement, il y a des vrais problèmes qui vont se révéler avec le service de santé. Ce sont des regroupements, des épidémies qui vont se déclencher dans les baraquements, des conditions parfois assez malsaines dans les cantonnements.
Dans les cantonnements et notamment dans celui proche de Bordeaux où les conditions de vie étaient incroyablement difficiles. Marc Michel, en parlant justement des moyens qu'on donnait aux tirailleurs africains pour se battre sur le terrain, on a une petite minute trente et je voudrais qu'on aborde tout de même cette idée reçue qui veut que les tirailleurs servait de chair à canon.
Juste un petit ajout concernant les pratiques.
On a une minute. L'armée. On a une minute et on sera coupé après pour le journal.
C'est pour dire simplement que l'armée a tenu à respecter les usages musulmans et de façon très 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 stricte. En ce qui concerne la chair à canon, disons les choses. Ben, les chiffres montrent que, en réalité, les pertes ne sont pas plus élevées que les pertes des fantassins, des unités de fantassins métropolitains. Et que sur ces pertes, une bonne partie sont composées de soldats qui sont morts de maladies, en particulier de pneumonie, comme dans le camp, le triste camp du Cournot, près d'Arcachon, au sud de Bordeaux.
Ouais. En tout cas, cette polémique, elle a eu lieu, hein, cette polémique de char à canon. C'est d'ailleurs Blaise Diagne lui-même qui a accusé le général Mangin d'avoir laissé les troupes africaines se faire massacrer lors de la bataille du Chemin des Dames en avril 1917. On aura certainement l'occasion d'y revenir juste après le journal. Le temps passe très très vite. Reste avec nous Marc Michel, Éric Doreau également. Et on poursuit, on répond vos questions à vos questions. 33 9 693 693 70. Ça dans 10 minutes.